araignées rares et écritures oubliées. La science moderne et les empires modernes étaient animés par un sentiment qui ne les laissait jamais en paix. Et si quelque chose d'important les attendait au-delà de l'horizon, une chose qu'il valait mieux explorer et dominer? Mais le lien entre science et empire était autrement plus profond. Les motivations, mais aussi les pratiques des bâtisseurs d'empire, se mêlaient à celles des savants. Pour les Européens modernes, bâtir un empire était un projet scientifique, et instaurer une discipline scientifique, un projet impérial. Quand les musulmans conquirent l'Inde, ils ne vinrent pas avec des archéologues chargés d'étudier systématiquement l'histoire du pays, des anthropologues pour en étudier les cultures, des géologues pour en étudier les sols, ni des zoologistes pour en étudier la faune. Quand les Britanniques conquirent l'Inde, ils firent tout cela. Le 10 avril 1802 fut lancé le grand relèvement, Great Survey, du sous-continent. Il dura 60 ans. Avec le concours de dizaines de milliers de travailleurs, savants et guides indigènes, les Britanniques cartographièrent méticuleusement le pays, marquant les frontières, mesurant les distances et calculant même pour la première fois l'altitude exacte du mont Everest et des autres sommets himalayens. Les Britanniques explorèrent les ressources militaires des provinces indiennes et la place de leurs mines d'or, mais ils se donnèrent aussi la peine de recueillir des informations sur des araignées indiennes rares, de cataloguer les papillons colorés, de retracer les lointaines origines des langues indiennes éteintes et d'exhumer des ruines oubliées. Mohenjo-Daro était une des principales cités de la civilisation de la vallée de l'Indus, qui fleurit au 3e millénaire avant l'ère commune et fut détruite autour de 1900 avant Jésus-Christ. Aucun des maîtres britanniques de l'Inde, ni les Mauryas, ni les Guptas, ni les sultans de Delhi, ni les grands Moghols, n'avaient jamais jeté le moindre coup d'œil aux ruines. Mais une mission archéologique britannique s'intéressa au site en 1922. Une équipe britannique commença les fouilles et découvrit la mère de la première grande civilisation de l'Inde dont aucun Indien ne se souvenait. Un autre exemple parlant de curiosité scientifique est le déchiffrement du cunéiforme, qui fut la principale écriture du Moyen-Orient pendant près de 3 millénaires. Or, la dernière personne capable de lire le cunéiforme mourut probablement au début du 1er millénaire de notre ère. Depuis lors, les habitants de la région ne cessaient de trouver des inscriptions en cunéiforme sur des monuments, des stèles, des ruines et des tessons de poterie. Mais ils n'avaient aucune idée de la façon de lire ces bizarres égratignures anguleuses. Pour autant que nous le sachions, ils n'essayèrent jamais. Le cunéiforme attira l'attention des Européens en 1618, quand l'ambassadeur d'Espagne se rendit sur les ruines de l'antique Persépolis, où il vit des inscriptions que personne ne put lui expliquer. Le bruit de la découverte d'une écriture inconnue se répandit parmi les savants européens et piqua leur curiosité. En 1657, des savants européens publièrent la première transcription d'un texte cunéiforme de Persépolis. Les transcriptions se multiplièrent et pendant près de 200 ans, les savants d'Occident essayèrent de les déchiffrer. Aucun n'y réussit. Dans les années 1830, un officier britannique du nom de Henry Rawlinson fut dépêché en Perse pour aider le Shah à entraîner son armée à l'européenne. Dans ses moments perdus, Rawlinson fit le tour de la Perse. Un jour, des guides locaux le conduisirent à une falaise des monts Zagros. L'immense inscription de Behistun, de 15 mètres de haut sur 25 mètres de large environ, avait été gravée au sommet d'une falaise autour de 500 avant notre ère, sur ordre du roi Darius Ier. Elle était en écriture cunéiforme dans 3 langues, vieux persan, élamite et babylonien. Elle était bien connue de la population locale, mais personne ne savait la lire. Rawlinson se persuada que si seulement il pouvait déchiffrer l'écriture, cela permettrait aux autres savants comme à lui de lire les nombreux autres textes et inscriptions que l'on découvrait à l'époque à travers tout le Moyen-Orient, ouvrant la porte d'un monde antique oublié. La première étape du déchiffrement des caractères consistait à produire une transcription exacte qu'on pourrait envoyer en Europe. Intrépide, Rawlinson escalada la falaise à pic pour recopier les lettres étranges. Il recruta plusieurs habitants du coin pour l'aider, notamment un petit Kurde qui grimpa jusqu'aux parties les plus inaccessibles de la falaise afin de copier la partie supérieure de l'inscription. Le travail fut achevé en 1847 et une copie exacte fut acheminée en Europe. Rawlinson ne se reposa pas sur ses lauriers. Officier, il avait des missions politiques et militaires à accomplir, mais chaque fois qu'il avait un moment de liberté, il se penchait sur l'écriture secrète. Essayant une méthode après l'autre, il finit par déchiffrer la partie en vieux persan. C'était le plus facile parce que le vieux persan n'était pas très différent du persan moderne que Rawlinson connaissait bien. La compréhension de cette section lui donna la clé dont il avait besoin pour percer le secret des sections en élamite et en babylonien. La porte s'ouvrit et en jaillit une multitude de voix anciennes mais vivantes. Le brouhaha des bazars sumériens, les proclamations des potentats assyriens et les chamailleries des bureaucrates babyloniens. Sans les efforts des impérialistes européens modernes comme Rawlinson, nous ne saurions pas grand-chose du destin des empires antiques du Moyen-Orient. William Jones est un autre exemple remarquable de savant impérialiste. Sir Jones arriva en Inde en septembre 1783 pour siéger en qualité de juge à la Cour suprême du Bengale. Il fut à ce point captivé par les merveilles de l'Inde que moins de 6 mois après son arrivée, il avait fondé l'Asiatic Society. Cette société académique se proposait d'étudier les cultures, les histoires et les sociétés de l'Asie, en particulier celles de l'Inde. 2 ans plus tard, Jones publiait ses observations sur le sanskrit, faisant œuvre de pionnier de la linguistique comparée. Dans ses publications, Jones insistait sur les étonnantes similitudes entre le sanskrit, langue indienne ancienne devenue langue sacrée du rituel hindou, et le grec et le latin, mais aussi les similitudes entre toutes ces langues et le gothique, le celtique, le vieux persan, l'allemand, le français et l'anglais. Ainsi, mère, mother en anglais, se dit matar en sanskrit, mater en latin et matir en vieux celtique. Jones conjectura que toutes ces langues devaient partager une origine commune et qu'elles s'étaient développées à partir d'un ancêtre antique oublié. Il fut donc le premier à identifier ce qu'on devait appeler la famille des langues indo-européennes. L'étude de Jones fut une étape importante en raison de ses hypothèses hardies et exactes, mais aussi de la méthodologie rigoureuse qu'il élabora pour comparer les langues. Adoptée par d'autres savants, elle leur permit d'étudier systématiquement l'évolution de toutes les langues du monde. La linguistique suscita le soutien enthousiaste des empires. Les empires européens croyaient que, pour gouverner efficacement, ils devaient connaître les langues et les cultures de leurs sujets. Les officiers britanniques, arrivant en Inde, étaient censés passer jusque 3 ans dans un collège de Calcutta où ils étudiaient le droit hindou et musulman en même temps que le droit anglais. Le sanskrit, l'ourdou, le persan en plus du grec et du latin, ainsi que les cultures tamoules, bengali et hindoustani, parallèlement aux mathématiques, à l'économie et à la géographie. L'étude de la linguistique fut d'une aide inestimable pour comprendre la structure et la grammaire des langues locales. Grâce aux travaux d'hommes tels que William Jones et Henry Rawlinson, les conquérants européens connaissaient fort bien leurs empires. Bien mieux en vérité que les conquérants passés, voire que la population indigène elle-même. Leurs connaissances supérieures avaient des avantages pratiques évidents. Sans ce savoir, il est peu probable qu'un nombre ridiculement petit de Britanniques aurait réussi à gouverner, opprimer et exploiter 2 siècles durant des centaines de millions d'Indiens. Tout au long des 19e et 20e siècles, moins de 5000 fonctionnaires, entre 40 000 et 70 000 soldats et peut-être 100 000 autres Britanniques, hommes d'affaires, parasites, femmes et enfants, suffirent à conquérir et à gouverner jusqu'à 300 millions d'Indiens. Pourtant, ces avantages pratiques ne furent pas la seule raison qui poussa les empires à financer les études linguistiques, botaniques, géographiques et historiques. Non moins importante est la justification idéologique que la science apporta aux empires. Les Européens modernes finirent par croire que l'acquisition de nouvelles connaissances était toujours bonne. Le flux constant de nouvelles connaissances produites donnait aux empires des allures d'entreprises progressistes et positives. Aujourd'hui encore, l'histoire de sciences comme la géographie, l'archéologie et la botanique ne saurait éviter de créditer les empires européens, tout au moins indirectement. les histoires de la botanique n'ont pas grand-chose à dire de la souffrance des aborigènes d'Australie, mais trouvent généralement des mots aimables pour James Cook et Joseph Banks. De plus, le nouveau savoir accumulé par les empires permit au moins en théorie d'en faire profiter les populations conquises et de leur apporter les lumières du progrès, de leur assurer soins médicaux et éducation, de construire des voies ferrées et des canaux, de veiller à la justice et à la prospérité. Les impérialistes prétendirent que leurs empires n'étaient pas de vastes entreprises d'exploitation, mais des projets altruistes poursuivis pour le bien de races non européennes, suivant les mots de Rudyard Kipling, le fardeau de l'homme blanc. Ô blanc, reprends ton lourd fardeau, envoie au loin ta plus forte race, jette tes fils dans l'exil pour servir les besoins de tes captifs, pour, lourdement équipés, veiller sur les races sauvages et agitées, sur vos peuples récemment conquis, mi-diables, mi-enfants. Naturellement, les faits démentaient souvent ce mythe. En 1764, les Britanniques conquirent le Bengale, la province la plus riche de l'Inde. Les nouveaux maîtres ne pensaient guère à autre chose qu'à s'enrichir. Ils menèrent une politique économique désastreuse qui se solda quelques années plus tard par la grande famine du Bengale. Elle commença en 1769, pour prendre des proportions catastrophiques en 1770 et se prolongea jusqu'en 1773. Elle coûta la vie à une dizaine de millions de Bengalis, soit un tiers de la population de la province. En vérité, ni le récit de l'oppression et de l'exploitation, ni celui du fardeau de l'homme blanc, ne cadrent parfaitement avec les faits. Les empires européens firent tant de choses différentes sur une si grande échelle que l'on peut trouver quantité d'exemples pour prouver tout ce que l'on veut. Vous pensez que ces empires étaient des monstruosités qui apportèrent mort, oppression et injustice à travers le monde? Vous pourriez aisément remplir une encyclopédie de leurs crimes. Voulez-vous plaider qu'ils ont en fait amélioré les conditions de leurs sujets grâce à de nouveaux médicaments, de meilleures conditions économiques et plus de sécurité? Vous pourriez faire une autre encyclopédie de leurs réalisations. Du fait de leur étroite coopération avec la science, ces empires eurent tant de pouvoir et changèrent le monde sur une telle échelle qu'on ne saurait les qualifier simplement de blancs ou de noirs. Ils créèrent le monde tel que nous le connaissons, y compris les idéologies qui nous servent à les juger. Mais la science servit aussi aux impérialistes à des fins plus sinistres. Biologistes, anthropologues et même linguistes fournir des preuves de la supériorité des Européens sur toutes les autres races, légitimant ainsi leur droit, voire leur devoir, de les dominer. William Jones, ayant soutenu que les langues indo-européennes descendaient toutes d'une seule langue ancienne, beaucoup de savants eurent hâte de découvrir qui étaient les locuteurs de cette langue. Ils observèrent que les tout premiers locuteurs du sanskrit, qui envahirent l'Inde depuis l'Asie centrale, voici plus de 3000 ans, s'appelaient Arya. Les locuteurs de la plus ancienne langue perse s'appelaient Eiriya. Les savants européens conjecturèrent alors que le peuple parlant la langue primordiale qui donna naissance à la fois au sanskrit et au persan, mais aussi au grec, au latin, au gothique et au celtique, devait s'appeler les Aryens. Était-ce un hasard si ceux qui fondèrent les magnifiques civilisations indiennes, persanes, grecques et romaines étaient tous Aryens? Des savants britanniques, français et allemands associèrent ensuite la théorie linguistique sur les industrieux ariens à la théorie darwinienne de la sélection naturelle pour postuler que les ariens n'étaient pas simplement un groupe linguistique, mais aussi une entité biologique, une race. Et pas n'importe laquelle. Une race de seigneurs, d'hommes grands aux cheveux blonds et aux yeux bleus, travailleurs acharnés et super rationnels, émergés des brumes du Nord pour jeter les fondements de la culture à travers le monde. Malheureusement, les Aryens qui envahirent l'Inde et la Perse se mêlèrent aux indigènes qu'ils trouvèrent sur place, perdant leur teint clair et leurs cheveux blonds en même temps que leur rationalité et leur diligence. Dès lors, les civilisations de l'Inde et de la Perse déclinèrent. En Europe, en revanche, les Aryens préservèrent leur pureté raciale. C'est pour cela que les Européens avaient réussi à conquérir le monde et pourquoi ils étaient aptes à le dominer, sous réserve qu'ils prissent la précaution de ne pas frayer avec les races inférieures. Éminentes et respectables de longues décennies durant, ces théories racistes sont devenues anathèmes dans les milieux scientifiques aussi bien que politiques. D'aucuns continuent à mener un combat héroïque contre le racisme sans remarquer que le front a changé. Le culturalisme a remplacé le racisme. Le mot est encore peu usité en ce sens, mais il est temps de l'imposer. Parmi les élites actuelles, les affirmations sur les mérites contrastés des divers groupes humains sont presque toujours formulées en termes de différences historiques entre cultures plutôt que de différences biologiques entre les races. Nous ne disons plus « c'est dans leur sang », mais « c'est dans leur culture ». Les partis européens de droite hostiles à l'immigration musulmane prennent habituellement soin d'éviter la terminologie raciale. Marine Le Pen n'aurait pas manqué de flanquer ses conseillers à la porte s'ils avaient suggéré aux leaders du Front National de tenir ce langage à la télévision « Nous ne voulons pas de ces sémites inférieurs qui viennent diluer notre sang arien et gâter notre civilisation arienne ». Le Front National, le Parti de la Liberté en Hollande, l'Alliance pour le Futur de l'Autriche et leurs pareils préfèrent soutenir que la culture occidentale, telle qu'elle a évolué en Europe, se caractérise par les valeurs démocratiques, la tolérance et l'égalité des sexes, tandis que la culture islamique, telle qu'elle a évolué au Moyen-Orient, se caractérise par la hiérarchie politique, le fanatisme et la misogynie. Puisque les deux cultures sont si différentes et que beaucoup d'immigrés musulmans ne veulent pas, et peut-être ne peuvent pas, adopter les valeurs occidentales, il ne faut pas les laisser entrer de peur qu'ils ne fomentent des conflits intérieurs et corrodent la démocratie et le libéralisme européen. Ces arguments culturalistes se nourrissent d'études menées dans le champ des sciences humaines et sociales, qui mettent en évidence le prétendu choc des civilisations et les différences fondamentales entre cultures. Tous les historiens et anthropologues n'acceptent pas ces théories, ni n'approuvent leurs usages politiques. Mais alors que les biologistes, aujourd'hui, n'ont aucun mal à désavouer le racisme, expliquant simplement que les différences biologiques entre les populations humaines actuelles sont insignifiantes, il est plus difficile aux historiens et anthropologues de désavouer ce culturalisme. Après tout, si les différences entre cultures humaines sont insignifiantes, pourquoi payer des historiens ou des anthropologues à les étudier? Les chercheurs ont fourni au projet impérial connaissances pratiques, justifications idéologiques et gadgets techniques. Sans cette contribution, il est très douteux que les Européens auraient pu conquérir le monde. Les conquérants les ont payés de retour en fournissant aux scientifiques information et protection, en soutenant toutes sortes de projets étranges et fascinants et en propageant les formes de pensée scientifique jusque dans les coins les plus reculés de la Terre. Sans ce soutien impérial, il est douteux que la science moderne aurait pu progresser très loin. Il est fort peu de disciplines scientifiques qui n'aient pas commencé par servir l'essor impérial et qui ne doivent une large proportion de leurs découvertes, de leurs collections, de leurs bâtiments et de leurs fonds à l'aide généreuse d'officiers, de capitaines de la marine et de gouverneurs impériaux. À l'évidence, ce n'est pas toute l'histoire. La science a été soutenue par d'autres institutions, pas uniquement par les empires. Et les empires européens se sont développés et ont fleuri aussi grâce à d'autres facteurs que la science. Derrière l'essor météorique de la science et de l'empire se cache une force particulièrement importante, le capitalisme. Sans les hommes d'affaires avides de faire de l'argent, Christophe Colomb n'aurait pu atteindre l'Amérique, ni James Cook l'Australie, et Neil Armstrong n'aurait jamais pu faire son fameux petit pas sur la surface de la Lune.